Je parlais. Laisse-nous.
Voilà, bonjour à chacune, à chacun. J'aimerais ce matin avec vous continuer avec des paraboles de Jésus. Alors, en toute simplicité ce matin, et d'autant plus que j'ai une migraine qui est là et qui ne m'aide pas à me concentrer, mais par la grâce de Dieu. Eh bien, il nous dira ce qu'il a envie de nous dire ce matin. Et ça, c'est formidable parce que c'est sa parole qui parle. Alors, une parabole toute simple, vraiment simple, qu'on trouve en Matthieu au chapitre 5. Ce n'est pas une histoire cette fois-ci, c'est plutôt une comparaison avec les choses de la vie quotidienne, les choses qu'on fait, les actes qu'on fait. Et puis Jésus prend un exemple et dit, ben, quand on a du bon sens dans la vie quotidienne, on fait pas ça, voilà quoi, ça rime à rien. Et il part de cet exemple, une sorte de leçon de choses, une métaphore, pour nous parler de quelque chose de spirituel. C'est la parabole de la lampe, ou de la ville sur la montagne. Matthieu, chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voilà, le Seigneur veut nous enseigner par des exemples de la vie quotidienne et du bon sens. Et il nous dit ici, bah écoutez, dans la vie en général, une lampe, ça sert à s'éclairer. Et il n'y a personne qui prend une lampe et puis qui la met sous le boisseau. Alors le boisseau, c'était une sorte de vase, un grand vase. C'était un récipient pour mesurer des choses, des matières sèches comme le blé, par exemple. Voilà. On voulait avoir vraiment une mesure précise dans les transactions commerciales. On comptait en boisseaux. Et donc, on mettait le blé ou alors le maïs ou autre chose, des matières comme ça, dans ce récipient. Ça faisait une unité de mesure commune à tout le monde, et on se mettait d'accord sur le prix. C'est d'ailleurs toujours le boisseau, une unité qui est utilisée aux États-Unis, c'est le boisseau US, pour la cotation en bourse des ventes de céréales aux États-Unis. Voilà. Et donc, ce vase, en quelque sorte, vous prenez ce vase ou un grand seau, et puis vous allez le retourner et vous allez le mettre par-dessus la lampe. Ben vous dites, attendez, si j'ai une lampe qui est là et que je prends un vase comme ça et que je le mets par-dessus, eh ben la lumière, elle va être emprisonnée à l'intérieur de ce vase retourné. elle va plus éclairer. On lui met un chapeau dessus, quoi. Voilà. Ça sert à quoi d'avoir une lampe pour lui mettre un vase par-dessus? Alors, l'intérieur du vase, bien sûr, du boisseau, bah, lui, il est éclairé, mais alors, autour, c'est le noir complet. Ça rime à rien. Et Jésus dit, bah, quand on prend une lampe, on ne lui met pas un pot par-dessus pour le recouvrir de sa lumière. Non, on va le mettre sur le chandelier, c'est-à-dire qu'on va le mettre sur quelque chose qui le porte bien haut, bien droit, bien au centre, pour que cette lumière jaillisse le plus possible alentour et éclaire au maximum, parce que c'est le but de la lumière. Le but de la lumière, c'est d'être éclairé. Si on ne veut pas être éclairé, on n'allume pas de lampe. Et Jésus dit, voilà, vous êtes la lumière du monde. Il prend un deuxième exemple dans cette parabole et dit, c'est pareil qu'une ville qui est située sur une montagne. Alors une montagne, une colline, on a peut-être en tête ces images de villages qui ont été édifiés un petit peu comme des nids d'aigle dans la roche. C'est impressionnant. Et il y a souvent des fortifications, un château parfois, en tout cas en France. Et puis des maisons ici et là. Et il dit, ben vous voyez, c'est un petit peu comme le Mont Saint-Michel, quoi. On peut pas le louper. Parce qu'il se dresse et que, alentour, puisqu'il est bien en évidence, bien en hauteur, eh bien, vous ne pouvez pas le manquer. Et puis, s'il fait nuit, eh bien, les lumières de cette ville, de toutes les maisons rassemblées, eh bien, vont se voir de loin, vont guider le voyageur, peut-être. Cette ville, elle peut pas être cachée. Eh bien, dit Jésus, il en est de même pour vous. Alors ce matin, on veut réfléchir à ce que Jésus veut nous dire au travers de cette parabole. Il nous dit, vous êtes la lumière du monde. Cette parabole va avec une première image que nous n'avons pas lue, que nous n'avons pas citée, c'est le sel de la terre. Je ne vais pas m'y arrêter aujourd'hui pour privilégier la deuxième image, celle de la lumière. Mais les deux vont un petit peu dans le même sens. Et Jésus dit de ses enfants, les enfants de Dieu, vous êtes des influenceurs. C'est très à la mode aujourd'hui d'avoir des influenceurs, notamment en question de mode, dans la mode, maquillage, quoi d'autre, les filles ? Hein, les cheveux, comment se coiffer sur YouTube, tout ça. Et vous avez des personnes qui sont des influenceuses, des influenceurs, et qui sont très suivies, ils ont des followers, et ils génèrent beaucoup d'argent comme ça surtout. Mais voilà, quand ils mettent deux couleurs ensemble, ben, ça va être suivi. Quand ils essayent tel style de pantalon qui s'arrête je ne sais pas où, enfin, hop, ça devient le nouveau truc. des influenceurs. Eh bien, les chrétiens, les disciples de Jésus-Christ, sont des influenceurs comme le sel et comme la lumière. Ça part d'un premier constat que Dieu fait. Si il dit « Vous êtes la lumière du monde », c'est qu'il constate que le monde est dans les ténèbres. S'il faut de la lumière pour éclairer, c'est qu'il fait nuit. Et le Seigneur veut que nous prenions vraiment conscience que ce monde est dans la nuit et dans les ténèbres. Il est dans une obscurité spirituelle. Il n'est pas éclairé du tout. C'est souvent une expression qu'on utilise, être éclairé. Quelqu'un d'éclairé, c'est quelqu'un qui sait à peu près où il va, qui a de la sagesse, qui est raisonnable, qui fait des choix avisés, intelligents et bons, qui sont constructifs. Eh bien, le monde, notre société, nos cultures, nos héritages familiaux, le Seigneur dresse un constat et dit « Vous n'êtes vraiment pas éclairé. Le monde n'est pas éclairé. Le monde est aveugle et il y a des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Le monde est ténébreux et il a besoin de lumière. » Et le Seigneur s'adresse à nous en nous disant « Vous êtes la lumière du monde. » Et dans ce verset, il y a une emphase qui est là, et on pourrait, sans trahir le texte, dire « Vous êtes la seule lumière du monde. » Coucou, vous êtes la seule lumière du monde, nous dit le Seigneur. Voilà, tout d'un coup, ça prend une autre dimension. Tant qu'il me dit, bon, vous êtes la lumière du monde, peut-être je réalise peut-être pas trop une lumière parmi d'autres. Non, il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la seule lumière, vous les chrétiens, vous les enfants de Dieu, vous qui êtes connectés au Dieu de vie, vous qui êtes connectés au Dieu de sainteté, qui avez reçu son esprit, qui connaissait sa pensée, qui avez été régénéré pour vivre d'une nouvelle manière qui glorifie Dieu, qui soit avisé, éclairé, constructive, bonne. Prenez conscience que vous êtes la seule lumière que ce monde est. Là, tout d'un coup, moi en tout cas, ça me fait tout drôle de me rendre compte que nous vivons parmi nos contemporains, nos collègues, nos amis, nos familles, tout un tas de gens dont beaucoup nous sont chers. Et moi, dans mon histoire personnelle, et vous dans la vôtre, vous avez rencontré Jésus-Christ. Vous avez découvert ce bonheur qu'exprime David et qu'on a relu ce matin dans le psaume 32, de pouvoir venir dans la repentance et de pouvoir être pardonné par le Seigneur et de pouvoir être rééclairé, vivre une vie dans la lumière du Seigneur, lui qui est la première et principale lumière. Prenez avec moi en Luc 79, Évangile de Luc, chapitre 1, au verset 79, Dans la prière de Zacharie à la naissance de Jean. Il parle de la naissance du Messie. Bien sûr, il parle de Jean-Baptiste qui est ce précurseur, qui prépare le chemin de Jésus, qui marche devant lui, qui prépare ses voies au verset 76. Mais voilà que, au verset 78, il nous dit que le soleil levant nous a visités d'en haut. Jésus-Christ est ce soleil qui nous visite d'en haut. Pourquoi faire? Au verset 79, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Ailleurs, Jésus est appelé une lumière pour les nations. Jésus-Christ a dit lui-même, « Je suis la lumière. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il est la lumière. » Et ce qui est extraordinaire, c'est que ensuite, à ceux qu'il a éclairés, à ceux qu'il a sauvés, à ceux qui, par la foi en lui, sont devenus enfants de Dieu, lui qui est la lumière s'adresse à ses disciples et leur dit « Vous êtes la lumière du monde ». Il y a ce « Je suis la lumière du monde » et puis pour ceux qui sont rentrés dans cette lumière de Jésus, alors ils deviennent eux-mêmes lumière. Nous le voyons en Éphésiens. Éphésiens 5, verset 8. Épître aux Éphésiens. Chapitre 5. Éphésiens 5, au verset 8. Il est dit, autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Ça, c'est formidable. Il y a une identité qui a changé. Quand on reprend la parabole de Jésus, il commence en disant, vous êtes la lumière du monde. C'est une identité. Vous êtes. Il dit autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière. Nous pouvons remercier le Seigneur de ce qu'il change notre identité. Et il la change. Et dès lors, nous ne sommes plus les mêmes. Nous sommes des lampes. Il ne s'agit pas de devenir une lampe. Il ne s'agit pas de se comporter comme une lampe. C'est le Seigneur qui a fait de nous des lampes. Mais il nous dit, par contre, il ne faut pas la mettre sous le vase. Une lampe, si vous prenez le vase et que vous le mettez par-dessus la lumière, votre lampe ne sert à rien. De la même manière, en parlant du sel, il disait, si le sel perd de sa saveur, avec quoi le salera-t-on ? S'il perd ses propriétés, le sel, ben, y a un problème. Et les lampes que vous êtes, si on cache la lumière qu'elles produisent, ça sert à rien. Alors, nous avons besoin de nous interroger, est-ce que moi qui me suis réconcilié avec Jésus-Christ et qui suis une lumière, je suis une lumière, est-ce que je mets cette lumière sous le boisseau? C'est-à-dire, est-ce que je vis en tant que chrétien en cachant la lumière que je dois produire pour éclairer la maison, pour éclairer l'extérieur? Est-ce que je suis une lumière, une lampe de Christ qui, où je mets un abat-jour par-dessus, mais un abat-jour tellement opaque qu'il n'y a plus de lumière du tout, hein, en quelque sorte. J'étouffe, je cache. Est-ce que je brille aux alentours? Ou est-ce que ce trésor que j'ai à l'intérieur de moi et cette lumière qui est là parce que je suis sauvé, parce que je me suis réconcilié avec Dieu, parce que j'ai reçu le Saint-Esprit, est-ce que j'étouffe cette lumière-là? Et Jésus veut vraiment qu'on n'étouffe pas cette lumière. Ils disent que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. La ville qui est sur la montagne peut-être nous fait penser à cette lumière collective. Une maison éclairée. Et notre maison éclairée, 3 maisons éclairées, 10 maisons éclairées, 100 maisons éclairées. Et voilà qu'on voit cette ville de loin. Oh, s'il fait jour, s'il n'y avait qu'une seule maison sur une montagne, peut-être qu'on ne la verrait pas, mais quand il y en a 100, on la voit. Et cela nous fait penser à cet aspect de témoignage de lumière collective qu'a l'Église. L'Église est une maison, l'Église est un temple, l'Église est un corps constitué de pierres vivantes, c'est un édifice. C'est les uns plus les autres, plus le Seigneur. Et cette multiplicité de lampes, de maisons sont visibles parce que nous sommes dans ce monde les uns et les autres et tous ensemble nous avons un témoignage, une lumière qui est donnée collectivement. Et puis Jésus parle de la lampe dans la maison. Donc, dans la ville, c'est plutôt le côté public et extérieur. Ce témoignage de veiller, d'avoir cette intention, une intentionnalité de faire briller la lumière de Christ dans nos maisons pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans nos maisons. Alors bien sûr, il y a une responsabilité et un appel tout spécifique et tout particulier aux parents. Aux parents chrétiens, envers tous ceux qui sont dans la maison, leurs enfants. Comment est-ce qu'envers nos enfants, nous qui nous sommes réconciliés avec Jésus-Christ, donc nous qui sommes lumière du monde, comment est-ce que déjà dans notre maison, envers nos enfants, nous veillons à mettre la lampe sur le chandelier. Et Jésus n'est pas naïf. Il sait que il y a bien des motivations qui gagnent le chrétien et qui fait que malheureusement, souvent la lampe, il ne la met pas sur le chandelier, mais il va plutôt avoir une tendance à la cacher, quoi. Dans les autres paraboles, dans une parabole similaire, pardon, des autres évangiles, il dit personne ne met une lampe pour la mettre sous le lit, quoi. Hein. Allez, on la met lit. Sous, ça sert à quoi? Mais Jésus n'est pas naïf et il sait qu'il y a tout un combat pour que cette lumière brille vraiment et soit brandie sur le chandelier plutôt que d'être cachée sous le lit, sous le vase, sous le pot, sous le boisseau. Il faut que nous soyons honnêtes devant le Seigneur et que nous posions la question aux enseignants finalement. Tu m'as sauvé, je crois en toi, je suis un chrétien, et je t'aime. Je suis une lumière. Et si je suis honnête, est-ce que déjà dans ma propre maison, est-ce que je veille à ce que cette lumière éclaire tous ceux qui sont dans la maison? Ou pas? Le Seigneur désire vraiment que nous réfléchissions à cela. Il nous donne une belle image, une belle comparaison, une belle parabole, toute simple, de bon sens. Où on se dit, bah, c'est vrai, attends, on veut de la lumière, mais de la lumière, quoi. On n'est pas bête, on va pas mettre un truc par-dessus où plus personne va rien voir. Avec, eh bien, si c'était évident dans la vie quotidienne, ça l'est moins dans le domaine spirituel. Et le Seigneur veut nous alerter là-dessus. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Frères et sœurs, le Seigneur veut nous rappeler au travers de cette parabole qui nous sommes et de veiller à ne pas cacher qui nous sommes. Nous sommes la seule lumière de ce monde. Et si nous ne brillons pas dans ce monde, qui va briller à notre place? Qui va briller à la place des chrétiens? Personne. Alors, réfléchissons à ce qui nous retient de briller. Peut-être ce qui nous retient de briller, ce qui fait que nous cachons la lumière, c'est peut-être la peur. Peut-être nous avons peur de briller. Parce que tout le monde n'aime pas la lumière. Je crois que c'est l'évangile de Jean, hein, qui commence comme ça. La lumière est venue dans le monde, et la lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres n'ont pas voulu de la lumière. Ça dérange, ça met en lumière justement. Peut-être nous avons peur de briller. Peut-être on est timide. Peut-être c'est le péché qui empêche de briller. Peut-être que, un petit peu comme l'image du sel qui, en Palestine, dans certains gisements, était corrompu par un mélange de minéraux comme le gypse et qui faisait perdre au sel sa capacité à conserver des aliments parce qu'il était lui-même corrompu. Peut-être que c'est parce que nous avons laissé le péché dans notre vie nous contaminer que nous avons du mal à tenir la lumière sur le chandelier dans nos vies. Peut-être que c'est tout simplement que nous nous sommes conformés au monde. Le monde nous va bien, il est bien installé, ce qu'il nous propose nous sied. Il y a un certain amour du monde qui est là. Et le Nouveau Testament nous le dit. Et celui qui veut être ami du monde, ennemi de Dieu. Peut-être c'est cette conformation, cette installation dans le monde qui fait que notre lumière sous le boisseau, sous le lit. Alors Seigneur veut nous réveiller, quelles que soient les raisons qui ont fait que tellement, y compris dans nos foyers, y compris envers nos enfants, y compris envers notre conjoint, pour que tout simplement nous vivions en accord avec ce que nous sommes. Nous vivions dans l'identité qui est la nôtre. Je le répète, il ne s'agit pas de devenir une lumière ou de devenir une lampe. Ça, c'est le Seigneur qui s'en est occupé. Il a fait cela. Il nous a donné une nouvelle nature. Il nous a fait naître de nouveau. Il nous a rendus participants de la nature divine. Lui qui est la lumière du monde, il nous dit à notre tour, vous êtes la lumière du monde. Alors que nous puissions marcher dans cette mission, dans cette destinée, parce que c'est véritablement une destinée que le Seigneur nous adresse lorsque nous avons fait route avec lui, choisi de faire route avec lui, de devenir ses disciples. C'était pas juste une adhésion à un club, c'était une renaissance, c'était une nouvelle identité, être lumière du monde. Et il nous invite vraiment à le faire pleinement. Prions. Seigneur, nous voulons nous interroger les uns et les autres en ce temps de confinement, déjà pour examiner si, à l'intérieur de la maison, nous mettons la lampe sur le chandelier, ou bien, bizarrement et curieusement, nous la mettons sous le lit, sous le vase, et elle n'éclaire personne. Seigneur, nous voulons te demander pardon pour tous les moments où nous mettons cette lumière que tu as mis en nous, nous la tenons cachée. Et nous voulons être renouvelés par toi, Seigneur, par ton appel pour briller, afin d'être des témoins dans ce monde afin de pouvoir, de ta part, éclairer des âmes perdues, éclairer des personnes en détresse. De la même manière, Seigneur, que toi, tu es venu pour éclairer ceux qui étaient assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, Seigneur, on veut te demander de nous aider à réaliser combien notre mission est importante. Parce qu'il y a des vies gâchées, il y a des âmes brisées, il y a le destructeur qui détruit. Il y a ces ténèbres, Seigneur, qui tiennent prisonniers. Et toi, tu veux, par notre intermédiaire, amener des hommes, des femmes, des enfants à être éclairés et à vivre une vie éclairée et en lumière. Alors rappelle-nous notre mission pour que nous puissions être des influenceurs, non pas pour des choses éphémères et stériles comme la mode ou le maquillage ou d'autres choses, mais des influenceurs pour le cœur, pour l'âme et pour l'éternité. À commencer par les personnes les plus proches de nous. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Merci Adrien pour la parole annoncée simplement, mais avec puissance, car il s'agit de la parole de Dieu. Et c'est parce que c'est simple que nous sommes en mesure de la saisir au mieux. Et le Seigneur l'a fait exprès, parce que nous avons besoin des choses simples pour nous enseigner. Et surtout des choses qui concernent notre vie de tous les jours, la lumière. Chantons ensemble.